Jazz and Blues, bonjour. Bonjour, c'est Bernard à l'antenne et toujours pour l'émission GM Jazz and Blues. Et on va continuer aujourd'hui un nouvel opus sur les contrebassistes. Ça doit être la sixième émission sur les basses. Donc voilà, nous continuons avec les contrebassistes. Et nous parlerons en particulier de Pierre Michelot. Pierre Michelot, qui est un contrebassiste et compositeur français. Ah ben si, il y en a quand même de temps en temps des compositeurs français. Né le 3 mars 1928 à Saint-Denis dans la Seine et décédé à Paris le 3 juillet 2005. Pierre Michelot commence par étudier le piano entre 1936 et 1938 pour ensuite se consacrer à la contrebasse dès 16 ans. Plusieurs formations marquent la carrière de Pierre Michelot, commencée dans la seconde moitié des années 40. HUM avec David Hummer et René Urtreger. Le trio The Three Bosses, composé de Bud Powell, épaulé par Kenny Clark, ou en accompagnement de Claude Nougaro avec Maurice Vander, mais aussi le quintet européen de Miles Davis. À ces formations, on peut ajouter un grand nombre de jazzmen comme Django Reinhardt, Sidney Bechet, Chet Baker, Miles Davis, avec qui il crée la bande originale du film de Louis Malle, Ascenseur pour l'échafaud. Ou les bebopers comme Dizzy Gillespie et Thelonious Monk. En 1959, sous l'impulsion de Jacques Loussier, il intègre le trio Playback. Le trio Playback. Avec Christian Garros. Cette formation, qui fait swinguer Jean-Sébastien Bach, commet un succès retentissant. Pendant plusieurs années, il est un des musiciens accompagnant Claude Nougaro. Il fait une brève apparition au cinéma dans le film Autour de minuit, où il interprète son propre rôle. En 2000, au cours des cérémonies de la victoire du jazz et de la musique classique, il reçoit une victoire de la musique collégiale pour HUM. Claude Nougaro lui rend alors un vibrant hommage. Les premiers signes de la maladie d'Alzheimer le contraignent à quitter la scène. Il lâche sa basse le 3 juillet 2005. Nous allons écouter Somebody Love Me par Pierre Michelot. Le roi Vinegar. Le roi Vinegar, je ne connais pas trop vraiment la prononciation, mais V-I-N-E-G-A-R, né le 13 juillet 1928 à Indianapolis, dans l'Indiana, et mort le 3 août 1999 à Portland, en Oregon. C'est un contrebassiste de jazz américain. C'est un représentant du jazz West Coast. Vinegar s'est fait une réputation à Los Angeles dans les années 50 et 60. Sa spécialité, elle a été la ligne de walking bass. Walking bass, je vous rappelle, on en a déjà parlé, c'est le fait de jouer sur tous les temps qui vous donne quelque chose de beaucoup plus swing, beaucoup plus allant, là, qui donne plus d'énergie au système. Et on le surnomme le Walker. Il participe à plusieurs albums pop, en particulier Saint Dominic Preview de Van Morrison en 1972. Il a enregistré à la fois comme leader et comme sideman. Il a attiré l'attention dans les années 50 en enregistrant avec Andy Previn, Stan Getz, Shorty Rogers, Chet Baker, Shelly Mann, Cher Shaloff et Art Pepper. Le disque The Root en 1956, The Return of Art Pepper en 1956 aussi. Il a joué de la basse dans l'album My Fair Lady de Previn et Mann. Début 68, il joue de la basse acoustique sur le morceau Spanish Caravan de l'album Waiting for the Sun du groupe The Doors. Il a également participé à l'album Swiss Movement d'Eddie Harris et de Lee McCann en 1969. Il a déménagé à Portland en 1966 et donc il est décédé en Il est décédé, je trouve pas la date. Si, le 3 août 1999 à Portland. On va écouter Oi Hi the Moon par le roi Vigenegar. Thank you. Eyes the Moon par le roi Vinegard, un bel exemple de walking bass. Et on passe à Paul Chambers, Paul Lawrence Dunbar Chambers Jr. Né à Pittsburgh en Pennsylvanie le 22 avril 1935 et décédé le 4 janvier 1969, est un contrebassiste de jazz américain des années 50 et 60. Il est né à Pittsburgh en Pennsylvanie le 22 avril 1935. Il grandit à Detroit dans l'état du Michigan après le décès de sa mère. Il commence à jouer de la musique avec plusieurs camarades de classe. Le phonium, c'est un petit tuba, est en fait son premier instrument. Puis vient le tuba, mais lui aussi ne lui convient pas davantage. Je m'en sortais pas trop mal, mais c'était quelque chose que de porter durant les longues parades, et je n'aimais pas trop cet instrument. Paul Chambers adopte la contrebasse en 1949. Il se met vraiment à l'instrument au début de l'année 52, quand il prend des leçons avec un bassiste de Detroit, du Detroit Symphony Orchestra. Il joue de la musique classique avec le Detroit String Band, ensemble qui avait pour fonction de répéter les morceaux de l'orchestre symphonique. Il étudie encore à la Cass Technical High School de 1952 à 55. Fort de cet apprentissage, il quitte finalement New York sur l'invitation du saxophoniste Paul Kinichet. Paul Chambers gagne en importance en tournant avec des musiciens comme Benny Green, Kinichet, George Wellington, G.J. Johnson et Kay Winding. En 1955, il rejoint le Miles Davis Quintet avec lequel il reste jusqu'en 1963. Il enregistre plusieurs de ses classiques, notamment King of Blue, et le premier morceau de ce disque, So What, qui ouvre sur une brève introduction jouée en duo avec le pianiste Bill Evans et constitue l'une des performances les plus notables. Par la suite, de 1963 à 68, le jazzman joue avec Wynton Kelly Trio. Il continue aussi à enregistrer pour d'autres grands noms du jazz au long de sa carrière, comme John Coltrane, Art Blakey et Sonny Rollins. Sur la fin de sa vie, Paul Chambers devient non seulement dépendant de l'alcool, mais aussi de l'héroïne. Il décède prématurément le 4 janvier 69 d'une tuberculose à l'âge de 33 ans. Son importance peut être mesurée non seulement par l'ampleur de son travail sur une courte période, mais aussi par sa maîtrise artistique et sa technique. Paul Chambers a enregistré avec les plus importants jazzmen de son époque, notamment Cannonball Adderley, Donald Byrd, Sonny Rollins, Freddie Hubbard, Bud Powell, Bill Evans, Herbie Hancock, Lee Morgan, Art Blakey, Wayne Shorter, Paul Kinichet, Wes Montgomery, Miles Davis, Joel Coltrane et Art Pepper. Il a participé à l'enregistrement d'albums notoires comme Giant Step de John Coltrane ou Kind of Blue de Miles Davis. De nombreux musiciens ont écrit des morceaux en hommage à Paul Chambers. On peut citer Mr. PC de John Coltrane, Big Paul de Tommy Flanagan, Paul Pal de Sonny Rollins, The PC Blues de Reg Garland. Et on va écouter The Theme de Paul Chambers. Thank you. De Scott Lafaro, Rocco Scott Lafaro, 1936-1961, contrebassiste de jazz américain. Il naît le 3 avril 1936 à Newark, dans le New Jersey. Il est le fils de Rocco Joseph Lafaro et d'Hélène Scott. Son père était un violoniste qui a joué notamment dans les orchestres de jazz de Paul Whiteman. Alors je dis toujours Whiteman, mais on me reprend, c'est Whiteman et Tommy Dorsey et Jimmy Dorsey. À 11 ans, Scott commence à étudier la musique. Après une année de piano, il commence la clarinette, puis à 14 ans, le saxophone ténor et la clarinette basse. Ce n'est qu'à l'âge de 16 ans qu'il s'intéresse à la contrebasse, tout en continuant le saxophone ténor. À la fin de ses études, il commence à se produire dans les orchestres de la région de Syracuse, près de New York. Puis il est engagé en 1955 dans le groupe de Buddy Morrow et dans le quintet de Chet Baker entre 1956 et 57. Après l'exil forcé de Chet Baker en Italie, Lafaro s'installe quelques mois à Los Angeles chez Herb Geller puis Charlie Haden. Il se produit entre autres avec Barney Kessel au club Lighthouse de Ward Rumsey à Hermosa Beach. Fin lecteur, déjà virtuose, il enregistre et tourne avec Hampton House, Victor Feldman, Harold Land et Marty Paich et Stan Kenton. Il remplace pendant plusieurs semaines le contrebassiste Leroy Vinegar, blessé dans un accident de voiture, dans la formation du saxophoniste Stan Getz. Un enregistrement réunissant Stan Getz et le vibraphoniste Carl Chader ayant été programmé pendant cette période, Lafaro participe à l'album Carl Chader de Stan Getz Sextet. Lafaro assiste au début controversé d'Ornette Coleman en Californie. Il joue d'ailleurs dans la formation d'un collaborateur du saxophoniste, le quintet du pianiste Paul Blais. On le plaçait au devant de la scène car il était le seul bassiste à pouvoir jouer des mélodies aussi vite que Paul Blais. Un album sera enregistré, mais les bandes matrices seront détruites par Paul Blais. En 1956, il retourne à New York où, pendant un temps, il est freelance. Répétition avec Benny Goodman, album de Tony Scott, Herb Geller, date avec Thelonious Monk. Entre 1959 et 61, il est membre avec le batteur Paul Mossian du trio du pianiste Bill Evans. Entre deux disques enregistrés en studio, entre parenthèses Portrait in Jazz et Exploration, et un enregistrement live, le concert du 25 juin 61 au Village Vanguard, dont témoignent les albums Waltz for Debbie et Sunday at the Village Vanguard. Cette formation révolutionne l'histoire du trio jazz, rompant avec la tradition du contrebassiste et du batteur se cantonnant en un rôle d'accompagnement. Les trois musiciens se livrent à une véritable improvisation à trois. Du contrepoint spontané des instruments dialoguent de façon égale. C'est cette interplay, cette synergie constante entre les musiciens qui fait la spécificité et la modernité de ce trio. Scott Lafaro est alors un des premiers bassistes à s'échapper de la walking bass pour se livrer à un échange constant avec le soliste. Lafaro participe à des concerts et à un enregistrement de Third Stream Music avec John Lewis et Gunther Schuller. Le 21 décembre 1960, il enregistre aussi au sein du double quartet d'Ornette Coleman, le disque qui allait ouvrir une nouvelle direction pour le jazz, Free Jazz, collectif improvisation. Suite en janvier 1961, cette fois en quartet, l'album Ornette. Lafaro est en alternance avec Charlie Haden, un des contrebassistes attitrés de la formation du saxophoniste. En 1961, en parallèle avec son activité au sein du trio de Bill Evans et du groupe d'Ornette Coleman, il est aussi membre régulier du quartet du saxophoniste Stan Getz. C'est comme contrebassiste de ce groupe qu'il participe le 2 juillet au Newport Jazz Festival. Par ailleurs, de 1959 à 61, il a aussi joué avec Solly Ronins, Booker Little, Steve Kuhn, Don Friedman, Herb Geller. Le 6 juillet 61, une dizaine de jours après les mythiques sessions du Village Vanguard avec Bill Evans, Scott Lafaro se tue en voiture sur la route de Genève, en Italie. À New York. Il a créé un fonds du prix Scott Lafaro. C'est le Scott Lafaro Prize Fund, fondation. Il s'agit d'un fonds qui récompense par attribution d'une valeur de $2,500 le plus talentueux des jeunes contrebassistes lors de la compétition de la Biennale de contrebasse à l'International Society of Bassists, ISB. Il est donc attribué tous les deux ans par l'ISB qui gère le fonds et recueille des dons sous l'égide de la famille et des héritiers de Scott Lafaro. Pour alimenter ce fonds, il est organisé des ventes d'objets en tirage limité avec par exemple un poster couleur de Scott Lafaro. Le premier récompensé fut John Sullivan en 2001. Quelques anecdotes. Scott LaFaro joua à la fin de sa vie sur une contrebasse Abraham Prescott. La contrebasse fut endommagée dans l'accident de la voiture dans lequel LaFaro périt. La mère de Scott la céda à Barry Colstein, le luthier. Celui-ci décida de la restaurer au mieux, et car c'est un instrument rare et de valeur certaine. Elle est maintenant propriété de Colstein & Sons à New York. Bien que non disponible à la vente, on peut la voir sur le site marchand de cet établissement. Voilà, et donc nous allons écouter Charles Chasling Shadow avec Scott LaFaro. C'était Scott LaFaro qui jouait Chasing Shadows.
The chasse sur les lieux. T'es loin d'avoir tout entendu.
Et maintenant, parlons de Charlie Haden, puisqu'on l'a déjà abordé juste avant. Charlie Edward Haden, dit Charlie Haden, né le 6 août 1937 à Shenandoah, dans l'Iowa, et mort le 11 juillet 2014 à Los Angeles, en Californie, est un contrebassiste américain de jazz, compositeur et chef d'orchestre. Il se fait connaître comme membre du quartet du saxophoniste alto et pionnier du free jazz Ornette Coleman à la fin des années 50 et au début des années 60. Quelques années plus tard, il fait partie du premier trio du pianiste Keith Jarrett et commence à réunir ses propres formations, dont certaines se sont révélées d'une grande longévité. Un jeu caractéristique, une simplicité appuyée et un son marquant ont fait de lui un créateur de style parmi les contrebassistes du jazz contemporain. Artiste engagé, Charlie Haden est connu pour avoir régulièrement pris position sur divers problèmes de société. Jean-Louis Comoli résume la personnalité musicale de l'instrumentiste en un mot. La basse de Haden, mesurée, sobre, sereine, trouve le ton juste pour accueillir les profondeurs du jazz, d'autres révoltes. Alors, on va écouter deux morceaux. On va écouter d'abord un morceau de Charlie Haden avec Pat Metheny qui s'appelle Beyond the Missouri Sky. Ça, c'est le titre du disque. Et le morceau s'appelle The Precious Jewel. On l'écoute. Thank you. The Precious Jewel. Donc c'était Pat Metheny avec Charlie Haden. Et maintenant on va écouter Charlie Haden et Kenny Barron. Et c'est un morceau qui s'appelle Body and Soul. Charlie Adden et Kenny Barron. Donc l'émission se termine, je vous parlerai de NHOP une autre fois, une autre émission. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne semaine et semaine prochaine, peut-être avec un NHOP justement, ou avec Slam Stewart, ou avec Major Holley. Voilà, il y a encore plein de contrebassistes à explorer. Eh bien, voilà, passez une bonne semaine.
Sur un lieu, t'es loin d'avoir tout entendu. Pac, 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 pac.